Je voudrais commencer en introduction par analyser un problème qui se pose souvent chez les mefarshim, chez les commentateurs, à différents niveaux, mais la plupart du temps en filigrane, comme si c'est quelque chose qui va de soi et qu'il n'est pas nécessaire d'en parler trop précisément. Mais il semble quand même qu'avec le temps, pour la culture contemporaine, c'est quelque chose qui va plus de soi, bien qu'il y ait une certaine pudeur qui continue, qui fait qu'on cache le sujet, et vous ne savez pas encore de quoi il s'agit. C'est qu'il semble y avoir un contraste tellement violent que finalement on n'ose pas en parler, entre la manière dont les premiers récits de la Torah décrivent l'état du monde à sa création, et en particulier l'expression « Vayar Elohim Kitov » et « Dieu vit que c'était bon », expression auquel Maharal en particulier a consacré énormément d'enseignements, et pour comprendre ce terme « Vayar Elohim Kitov » que c'était bon, ce terme de « Tov » appliqué à l'état du monde, à sa création, il faut le comprendre bien évidemment en hébreu, et cela signifie que cela méritait d'exister. Est appelé bon dans ce contexte ce qui mérite l'existence, ce qui mérite l'être. Il y a une dimension métaphysique qui dépasse absolument un simple jugement de qualitatif d'une qualité qui s'ajouterait à l'existence, une existence bonne. Mais au début, dans le premier chapitre, il n'y a pas du tout allusion au terme qui s'oppose à Tov, le terme de rare qui signifierait mauvais. Et donc, il y a un sens beaucoup plus profond à cette expression « Vayar Elohim et kol asher asa b'inetov meod » et que Dieu a jugé que ce qu'il a créé était bon. Le terme, encore une fois, de « bon », ici, n'est pas simplement un adjectif qui s'ajoute à la substance de l'être. Je fais allusion à l'expression grammaticale du substantif et de l'adjectif, mais c'est un terme qui désigne ce qui mérite d'être. Et donc, il y a un sens de « total ». C'est très très résumé une des indications que le Maharal a donné à ce jugement que Dieu porte sur sa création au commencement, d'une part, et d'autre part le contraste qu'un tel jugement et ce qui ressort de la lecture de ce texte qui rend compte que c'est Dieu qui a créé le monde avec l'état du monde tel que nous le connaissons. Il y a un contraste tellement violent qu'il y a eu dans ce qu'on appelle en général la théologie, il y a une branche. Le nom m'échappe, c'est un terme philosophique qui dérive du Moyen-Âge, la théodicée. La théodicée, c'est une tentative de justifier Dieu d'avoir créé le monde. Une sorte de louange a posteriori, un peu d'ordre apologétique, de justifier Dieu quand même d'avoir créé le monde, étant donné l'état du monde. Est-ce que le problème est suffisamment clair? Alors je voudrais commencer par une analyse à ce sujet sur le texte. Et ceci nous renvoie à une catégorie philosophique que je vais formuler en deux termes philosophiques classiques. C'est la dichotomie qu'il y a, un troisième terme qui s'introduit, la différence qu'il y a entre la vérité et la réalité. Le monde en vérité est absolument bon. Leibniz disait, c'est le monde qui est le nôtre, c'est le meilleur des mondes possibles. Mais encore une fois, confronté à la réalité, il semble qu'on ne comprenne pas ce que Leibniz voulait dire, ce que le Maaseh Bereshit veut dire en disant « Kitov ». Est-ce que c'est clair comme sujet? Et il y a une séparation de ces deux catégories, la vérité et la réalité. Et j'ai l'habitude, lorsque je parle de ces problèmes, de dire en schématisant, mais pour aller à l'essentiel, que tout se passe comme si. Ça, c'est une nuance qui n'est même pas restrictive. Tout se passe comme si la tradition d'Israël par rapport à ce problème est d'un côté, tout le reste du monde de l'autre. Nous sommes dans un monisme intégral avec la tradition hébraïque et que partout ailleurs, même si c'est insidieux, subreptice, c'est du dualisme. Qu'il n'y a aucune conciliation possible entre la vérité et la réalité, et c'est, si vous voulez, la catégorie fondamentale de toute philosophie. Toute philosophie commence par être dualiste, et même lorsqu'elle a une visée moniste, elle reste quand même, malgré tout, aux prises avec ce problème du dualisme entre la vérité et la réalité. J'en envoie un exemple concret tout à l'heure dans l'étude du texte lui-même. Alors que le parti pris de l'option de foi hébraïque, c'est que c'est le même créateur qui fait exister la vérité dans sa perfection de l'absolu, dans son absolu de perfection, et la réalité dans son absolu d'imperfection. Que ce contraste entre la vérité et la réalité qui fait que le monothéisme de la Bible n'est pas naturel, spontané à la pensée humaine, c'est une révélation, et ce contraste, nous le vivons entre l'idéal et la réalité, si vous voulez, et nous le vivons en particulier dans l'espérance de la foi, entre la définition du monde en tant que Olamazé, ce monde-ci comme il est, et la définition de ce même monde en tant que Olamaba, le monde qui vient. Et ce serait un tout autre sujet d'expliquer pourquoi on ne peut pas traduire le monde à venir. C'est un verbe qui est transitif, Olam Haba, le monde qui est en train de venir. Et on doit à Edmond Flegg l'expression le monde qui vient en français. Et que ce monde-ci, tel qu'il est l'antichambre, la préface, le prosdor, comme nous disons en hébreu avec un mot grec en plus, de Olam Haba. Que pour nous, c'est le même monde à deux niveaux différents, le niveau de la réalité et le niveau de la vérité. En vérité, dans le projet du Créateur, c'est le Olam Haba qui a été voulu, et il existe déjà en tant que projet, puisqu'il a été projeté. Et ce monde de Olam Haba, le monde en vérité, et il est inutile de dire qu'à ce niveau-là, il n'y a aucun problème de contraste entre la vérité et la réalité, puisque la vérité est réelle, la réalité est vraie. À ce niveau de Olam Haba, c'est le Olam Mahashava. Le monde de la pensée du Créateur lorsqu'il a pensé le monde. Marchevet Aboré. À ce niveau, nous sommes en plein dans le monde du Tov absolu, où il n'y a pas de trace, même pas, de ce qui sera beaucoup plus bas dans la réalité, ce que nous appelons le Ra, le mal. Il n'y a pas de trace, même pas à la racine. Il faut descendre très très bas dans la réalisation du projet de vérité pour que apparaisse, et c'est un mystère pour les philosophes, c'est un des sujets les plus importants de l'étude de la Kabbalah, pas mystère, mais secret, de savoir comment, de ce monde que Dieu a voulu et qui est dans la volonté de son projet, dans son projet de volonté absolument bon, absolument vrai, finalement, devenant réel, il fait apparaître les catégories du mal. Ce n'est pas ce sujet que nous allons traiter, mais je voulais simplement décrire ce contraste. Eh bien, dans la position de la foi hébraïque, de la foi juive, il y a un monothéisme radical, et cela nous l'avons étudié à la soirée de Rosh Hashanah Rabbah, cette perspective du monothéisme absolu, mais il y a pour notre problème un monisme radical de l'essence profonde du monde. C'est le même créateur qui a voulu le monde de vérité et qui a fait le monde de la réalité. Ceci est au-delà de prise de l'analyse intellectuelle. C'est une foi, une option de foi. Ça ne signifie pas que, s'appuyant sur cette option de foi, qui est connaturel à la sensibilité hébraïque. Or, de quoi on ne comprend pas la prophétie hébraïque sans ce point de départ de l'évidence de la manière d'être hébreu. Il est impossible qu'il n'y ait pas unité, quelles que soient les apparences, qu'il n'y ait pas unité profonde de ces deux polarités de l'être, l'être de vérité et l'être de réalité. Or, l'être de vérité et l'être de réalité, en vérité et en réalité, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Nous connaissons l'un par les yeux de l'esprit, si j'ose dire, nous connaissons l'autre par les yeux de chair. Et l'exemple que je voulais donner, c'est dans les sciences humaines, et je crois que, ça je dirai après, c'est la mathématique et la physique. La mathématique est tout ce qu'il y a derrière la mathématique, des sciences devenues mathématiques, et la physique est tout ce qu'il y a derrière les sciences de la réalité. Or, d'avoir découvert que la loi du monde mathématique rend compte de la réalité du monde physique, c'est une intuition monothéiste. Et ça a été le génie de la science moderne à sa racine. Il a fallu nous ne sommes pas en cours d'épistémologie, mais il a fallu des siècles pour que la science occidentale se dégage de cet interdit du dualisme grec qui l'empêchait de penser l'unité profonde qui a permis la science moderne. Parce que si la loi mathématique ne rend pas compte du fait physique, la science moderne n'est pas possible. Or, la science moderne existe. Elle est efficace, puisque les locomotives marchent, et les frigidaires aussi. Je veux dire, puisque, finalement, la technique illustre la vérité de la épistémologie de la science. Qu'il y ait des philosophies de la science moderne qui soient opposées de sensibilité et de sens à la Torah, c'est évident. Mais je ne parle pas des philosophies de la science, je parle de la science elle-même. La science elle-même en tant qu'elle est positive, et non pas du positivisme sur la science positive. Je referme la parenthèse, mais je pense que vous comprenez ce que je veux séparer par là. Or, il est évident que la réalité correspond à la loi de vérité. Et cela, cette intuition de la culture, disons, de la philosophie des sciences contemporaines, dans le sens étymologique, épistémologique, eh bien, c'est l'intuition de base de la conscience hébraïque. Celui qui a voulu le monde de vérité, c'est lui qui a fait le monde de la réalité. Il a fallu des siècles pour que ça devienne une évidence familière. On ne soupçonne pas souvent que derrière l'affirmation du monothéisme hébreu, il y a aussi cela. Alors ceci pour indiquer que nous allons trouver deux verbes radicalement différents dans le Maaseh Bereshit pour dire le fait de faire exister le monde de vérité, c'est le verbe de baro, vaibra, qu'on traduit en français par créer. Et d'autre part, de faire exister la réalité, c'est le verbe vayaas, il fit. Et le olam a bria, le olam a asiya. Petite parenthèse pour indiquer pourquoi nous avons une difficulté de vocabulaire. Parce qu'en français, le terme de créer ne désigne pas faire exister le monde de vérité, mais il désigne faire exister le monde de la réalité. Est-ce que c'est clair? C'est de dérivé du latin, d'une racine latine qui dit, qui signifie rendre réel. Si vous connaissez le mot res en latin, qui signifie chose, faire chose. Ça correspond un peu à la notion de geshem en hébreu, pas dans le sens de pluie, mais dans le sens d'un corps, geshem, gashmi. Okay? Eh bien, on est un peu gêné, mais il suffit de le signaler que lorsqu'on dit en français créer, on pense à la matière. Alors qu'en hébreu, le baro, l'objet de baro créé, c'est l'objet de vérité, l'idée. Un peu à la limite, quoique ce n'est pas exactement ça, l'idée dans le sens du vocabulaire chez Platon. L'idée, et non pas l'ombre de la matière, mais ça c'est du Platon. Simplement, puisqu'on parle français, je vous donne des indications d'éclairage. Lorsque le texte dit vaibra, c'est dans la perfection absolue du Olam HaMahashava. Lorsqu'il dit vayaras, c'est dans le monde de la réalité. Alors ce décalage entre la perfection d'un monde qui serait à l'honneur de Dieu et l'imperfection du monde de la réalité, de notre représentation, de notre expérience, est connu par le vocabulaire du texte qui nous raconte un Dieu unique qui a créé et qui a fait. Voilà l'introduction à ce problème. Est-ce que c'est bien clair? D'ailleurs, si vous voulez, si vous avez une question là-dessus, pour que ce soit bien clair, et ensuite je prends un exemple de ce décalage entre le projet de vérité et la réalité du factum, comment dire ça en français, du fait, de ce qui est advenu. Et si vous avez des questions, ça me donne le temps de souffler. Okay. Les anges en sont la cause. Parle plus fort. Okay. Ken. Oui, d'ailleurs, c'est pas moi, c'est une citation. Hein. Oui. C'est-à-dire, dans le Olam HaAsiya, qui est le monde le plus inférieur au niveau de la réalité, il y a en réalité plus de mal que de bien. Olam HaYetzira, c'est la moitié la moitié. Olam HaBriya, il y a l'amorce de la racine de ce qui sera en bas, le Shoresh du Rav. Et plus haut, Olam HaAsilut, c'est encore plus haut que le bien. En vérité, il y a quatre niveaux de l'être pour le vocabulaire de la Torah. Je n'ai fait allusion qu'à deux de ces niveaux qui nous sont familiers à cause du dualisme occidental. La pensée hébraïque pense par quatre, alors que la pensée occidentale pense par deux. C'est clair jusque-là. Hein? Quatre qui sont cinq. Rappelez-vous la main. Hein? Quatre qui sont cinq. Et ça y est, c'est clair? Je vous dis très rapidement le nom de ces quatre niveaux qui s'unifient dans un cinquième. C'est Olam HaAtzilut, Olam HaBriya, Olam HaYetzira, Olam HaAsiya. Nous avons dans le premier chapitre deux termes, Baro, Asso. Le deuxième exemple que j'analyserai, je le prendrai dans le deuxième chapitre, où il y aura le terme de Yatzor, Yetzira, si nous avons le temps d'arriver au verset 7 du chapitre 2. Et alors, sur la question que tu as posée, Laurent Mabria disait culotto, avec l'annonce de ce qui plus bas sera ce que nous appelons rare, tort le bien par le mal en français, et même là-haut, la racine de ce qui est rare en bas, elle est complètement bonne. Comment arriver à comprendre ça si l'on peut choisir ça comme exemple? Mais tout à l'heure. Et nous avons une phrase de la Torah Shebealpé, En ra yored min hashamayim. Il n'y a pas de mal qui descende du ciel. Il n'y a pas de mal qui descende d'en haut. C'est quand ça arrive en bas, la manière dont ça s'est reçu, que ça s'inverse en mal. C'est un mystère pour la pensée occidentale. Ça a l'air même d'être une pirouette. Parce que en bas, le mal, c'est vraiment du mal. Et alors dire que c'est du bien en finalité, attendez, je vais trouver une expression plus précise, que c'est un bien, que ce soit un mal, parce que le mal, c'est ressortir le bien qui consiste à être bien, ça c'est des pirouettes d'une théodicée de bouillie sucrée à l'eau bénite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que quand quelqu'un a mal, il a mal. C'est un scandale de dire que tu crois que tu as mal, mais c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, les rabbins refusent ça. Okay? Ça, c'est la pseudo-consolation. Quand on est devant quelqu'un qui a mal, on se tait. C'est la plus grande consolation. On reste à côté de lui, on se tait. Mais faire semblant de dire, c'est pas grave, tu verras, ça te servira à t'améliorer, tu auras un salaire là-haut, etc., c'est un scandale. C'est un sujet pour lui-même, mais je le referme entre parenthèses. Je vous raconte une histoire qui est dans le Talmud, que vous connaissez sans doute, à propos des issourines, des souffrances, dont on ne sait jamais, quand on parle des rabbins du Talmud, on parle de géants de la vertu. Alors on ne sait jamais à ce niveau si des souffrances et des punitions ou des épreuves d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire, une épreuve d'amour, en plus? Il y a une collision de concepts qui fait problème en soi. En particulier, on raconte l'histoire de Rabbi Yochanan, qui est tombé malade, qui était très malade. Ses collègues sont venus le visiter, et un de ses collègues lui a demandé « Habibin alecha yisurin, est-ce que tes souffrances te sont chères » Sous-entendu, « Qu'est-ce que tu auras comme salaire ?» Alors il répond « Lohen belosraran, ni elle, ni leur salaire. » Et il faut s'habituer à ce qu'est la sensibilité de la tradition juive pour le problème des épreuves. Quoi qu'il en soit, pourquoi j'ai commencé à vous parler de ça? J'ai pensé à Rabbi Yochanan, je suis dans sa yeshiva là-haut, je ne suis plus là, j'ai oublié. Okay. Oui, Enra Yored Min Hashamayim. C'est quand c'est en bas que ça devient rare. Mais c'est donc pourquoi je vous signalais qu'il ne faut pas esquiver le problème. Le rare, c'est vraiment du rare. Un de mes maîtres, Jacob Gordin, Zichrono Livracha, nous disait, j'ai entendu dire ça il y a 45 ans, et il nous disait, qu'est-ce que c'est un athée moderne? Un athée moderne, c'est pas quelqu'un qui croit pas en Dieu, parce qu'il sait pas de quoi il parle. Un athée moderne, c'est quelqu'un qui croit pas au mal. Ça veut dire, quelqu'un qui croit pas au mal, alors il faut se méfier de lui. Et c'est clair, qui croit pas que le mal c'est mal, alors il faut se méfier de lui. Et il nous racontait beaucoup de Midrashim à ce sujet, mais je reviens à la question. Et je voulais mettre en évidence ces deux termes de vocabulaire. Vaibra, bara, ça veut dire faire exister l'objet de la création au niveau de la vérité. Et l'atteinte de cette vérité est au niveau, est au-delà de la pensée avec image. C'est-à-dire, tant qu'on pense avec image, on ne pense pas encore, d'après la Torah. On l'imagine. Ça, nous avons étudié ça une fois, je suppose, mais je ne sais plus en quelle année. C'est un problème très important. Tu ne te feras pas d'image, ça vaut d'abord pour la pensée. Les images de la pensée, c'est les mythes. Et ce sont les images les plus dévastatrices, au point de vue de l'idolâtrie. Je vais vous raconter un midrash que j'ai inventé. J'en profite pour vous dire que c'est interdit d'inventer des midrash. Mais pour l'exposition de l'idée, j'ai dû vous le raconter déjà. Et quand Dieu a créé le premier homme, il lui a dit « Si tu es sage, je te donnerai une image. » C'est ce que les traducteurs traduisent à l'image de Dieu. Une image pieuse. Et il lui a dit « Rendez-vous au Sinaï. » Et au Sinaï, il lui a dit « Tu seras sage et tu ne te feras pas d'image. » Comme ça, c'est clair. Et après, il a dit « Rendez-vous à Jérusalem. » Il n'y a qu'Israël qui est arrivé. Pas tout seul, on a un problème, mais c'est Israël qui est arrivé. Et là... L'image dans la pensée, c'est l'idole. Vous étudierez les commentaires de Rashi, qui cite le Midrash, sur les 10 commandements, que L'idole commence par se faire au niveau d'une image de la pensée. Or, l'image de la pensée, lorsqu'elle devient mythe, elle a une vie propre. Et il y a des mythes qui ont la vie dure, si j'ose dire. Et c'est donc ce projet de vérité dont je vous parle, lorsque les kabbalistes parlent de Olam HaBriya, qui est au niveau de la Sphira Bina, dans le vocabulaire de la Kabbalah, c'est Olam HaBriya. Okay? C'est au-delà de la pensée avec image. C'est beaucoup plus bas, la pensée avec image. Alors, à ce niveau, c'est le monde dans sa vérité absolue, et ce monde dans sa vérité absolue est appelé Olam HaBa. Donc, il existe déjà. C'est pourquoi, d'ailleurs, la Mishnah de Sanhedrin qui parle de la part de Olam HaBa qui est réservée à chaque membre d'Israël et à ceux qui ne sont pas d'Israël et qu'on appelle les Hasidei Umat HaOlam, chacun a sa part, eh bien, la Mishnah dit « Kol Israël yesh lahem chelek laOlam HaBa ». Et un des commentaires dit « Kol Israël yesh ». Yesh, c'est au présent. À tout Israël, il y a déjà un chelek laOlam HaBa. L'essentiel, c'est de ne pas le perdre. Tout est donné à l'avance, mais il ne faut pas le perdre. Et c'est encore un autre sujet. Et l'image qui apparaît là, et qui est donnée dans beaucoup de Midrashim, en particulier dans le Zohar, c'est que c'est le Olam HaBa que Dieu a créé. Et il l'a diminué au niveau de Olam HaZé. Ce que Dieu a créé, c'est le monde de vérité. Et il l'a diminué au niveau de la réalité. Ça s'est passé entre le premier et le deuxième verset de notre texte. Je vous lis en hébreu et en français. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre, au niveau du projet de vérité, puisque c'est bara que porte le verset comme verbe. C'est clair ? Deuxième verset, et la terre était devenue chaos. Ve'aret aita tohu vavu. Haaret du deuxième verset, c'est la terre de la réalité. Alors que Haaret du premier verset, c'est la terre de vérité. Le Zohar indique, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, sur ce Haaret du premier verset, Haaret shel ma'ala. Donc, ce contraste entre vérité et réalité, qui a été le point de départ de l'analyse, est connu du récit d'emblée. Il faut donc récupérer cette évidence. Lorsque nous parlons du monde imputé à Dieu, ce n'est pas le monde de la réalité imparfaite, quoique c'est le même. Mais j'espère que vous avez compris en quoi ce n'est pas le même. Si c'est suffisamment clair. Okay. Tout cela est enfermé dans une des dimensions de signification du mot Bereshit. Au commencement, Dieu créa. Et il y a une suite à ce commencement. Et ce que c'est devenu dans la suite du commencement, c'est ça que nous avons là, comme on disait à Babelouet, et c'est un français spécial, et qui revient à l'heure de vérité. Et ce que dit le verset, et la terre était devenue chaos. Vous voyez, le contraste entre le monde de vérité et le monde de la réalité nous est donné par cette expression qu'on traduit par chaos. Par rapport au monde de vérité, le monde de la réalité, c'est un chaos. Et donc, il faut se poser la question, je l'attends, votre question, en vue de quoi? Pourquoi c'est comme ça? Quelle est la finalité de cela? Ça, c'est la vraie question, le vrai problème. Posez-le-moi tout à l'heure, si je n'y pense plus. Parce que quand on a déjà la réponse à une question, quand la question ne se pose plus, c'est faux. Elle continue à se poser. Voilà donc, en tout cas, pour ce premier principe, il est bien évident qu'on ne peut pas interpeller le texte de la Torah en disant « Mais est-ce que vous parlez vraiment du monde qui est le nôtre ? Est-ce que ce texte parle vraiment du monde qui est le nôtre ? Qui peut dire, en jetant un regard sur le monde tel qu'il est, c'est bon ?» À la rigueur, on peut dire « C'est bon et mauvais ?» Mais tout ça, c'était pour répondre à la question, et c'est plus mauvais que bon. En bas, il y a plus de rare que de tôt. Par exemple, il y a un Midrash qui dit, quand Dieu a vu la série des Shushelet, des dynasties de génération de l'homme, il a vu qu'il y aurait plus de Rechaim que de Tzadikim. Vous voyez comment ça s'éclaire déjà ce Midrash, d'après notre analyse. Quand il a vu l'homme dans la vérité, il a vu que c'est très bon. Quand il l'a vu dans la réalité, il a vu qu'il y a plus de Rechaim que de Tzadikim. Et alors, il a pris les Tzadikim et il les a ishtilam, pas dispersés, il les a plantés dans toutes les générations du monde. Mais c'est pourquoi il y en a si peu par génération. Les syndicats, ils ont été, comment dire, comment on peut dire en français, répartis dans toutes les générations. Ça se rattache aussi à l'enseignement des Gilgoulim. C'est les mêmes tzadikim à travers toutes les générations, au niveau de l'envergure de chaque génération. Quelques tzadikim dans la réalité, et beaucoup de recharim dans la réalité. Il y a un problème de la finalité des recharim. Si vous avez noté toutes les questions qui se posent à nous, on essaiera de la rencontrer tout à l'heure. À quoi ça sert les recharim? Et on verra que ça sert à quelque chose, puisque c'est Dieu qui les a faits. Je n'ai pas dit créés. Vayaras, okay? Fait. Donc, ils servent aussi à quelque chose. Le Rav Ashlag a un enseignement très important à ce sujet. Et à quoi servent les recharim? Ils servent aussi à quelque chose. Donc, je voudrais, avant de refermer cette parenthèse, citer un enseignement du Rav Tzvi Yehuda, qui avait l'habitude de citer une Mishnah des Pirkei Avot à propos de Aaron HaKohen. Aaron HaKohen est connu comme étant l'homme de paix par excellence. Un Kohen, le Kohen, c'est sa fonction, c'est la paix, c'est faire la paix entre les hommes. Et la Mishnah, interprétée par le Rav Kook, nous enseigne que la fonction du Kohen, c'est de faire la paix entre les Rechaim et les Sadikim. Et je viens de découvrir quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a un mouvement politique qui s'appelle Ratz. Okay? C'est Otiot. J'ai rien dit. Bon. La Mishnah, mais qu'est-ce qu'il a mis en tête, Tsar. La Mishnah dit ceci, que Aaron était l'homme de la paix entre les tzadikim et les rechaim. On va voir comment le Rav lit dans la Mishnah, alors qu'on s'est trop habitué à l'idée que le Kohen doit être celui qui sépare les rechaim et les tzadikim. C'est au contraire celui qui leur fait faire la paix. Et alors, la Mishnah dit qu'il est Ohev Shalom, Rodev Shalom, qu'il aime la paix et qu'il poursuit la paix. Peut-être qu'il y a là, j'y pense maintenant, mais peut-être qu'en y réfléchissant bien, on trouvera un lien. Il aime la paix au niveau de la vérité, mais il poursuit au niveau de la vérité, il poursuit la paix, Rodev Shalom, au niveau de la réalité. Se borner à aimer la paix comme slogan, c'est une chose, mais la rechercher vraiment, ça c'est une autre. Bon, je ne sais pas ce que Ratz dirait à ce sujet, mais... Et... Ohev et Avriot, Umkarevan la Torah. Il aime les créatures et les rapproche de la Torah. Le Rav Kook enseignait, s'il aime les créatures qu'il doit rapprocher de la Torah, ça veut dire qu'il aime les créatures qui sont loin de la Torah, puisqu'il doit les rapprocher. Vous voyez quelle est l'indication du texte, c'est le pshat même du texte. Et je referme donc cette parenthèse par quatre phrases, qui j'espère ne m'amèneront pas à quatre chapitres. Au niveau du Olam Hatzilut, c'est les Mahla Mitob, encore plus haut que bon, et Olam Abriya, c'est notre texte, Tov, Tov Meod. Yetzira, Chatzi Tov, Chatzi Ra, et Asiya, Ruboto, Miruto, Skecha, inverse, regardez, les lapsus de l'espérance. Rubo Ra, et Miruto, Tov. Ken, quelle est votre question?
Oui.
Il a fait, ou Boré Ra.
Voilà.
Oui. Chapitre 41, verset 17 ou 7. Mais 41, je crois que je me rappelle. Eh bien, c'est ça. Ça veut dire que la racine sera au niveau Beria, ça l'a indiqué tout à l'heure. Vous avez bien fait, posé, n'est pas rare. Et là, c'est là que l'enseignement du Rav Ashlag, auquel j'ai fait allusion, qu'à la racine, ce que nous appelons le mal en bas, n'est pas mal. Et au contraire, c'est une des conditions de l'existence. Vous vous rappelez que j'ai posé la question de la finalité des Rechaim. Alors, bon, à travers votre question, je vais ouvrir une parenthèse pour enseigner ce qu'enseigne le Rav Ashlag à ce sujet. Le Talmud enseigne que, en se basant sur des versets très, très précis du livre de Bereshit, des versets qui sont donnés à propos du déluge, lorsque le jugement qui aboutit au déluge, disqualification des 10 premières générations de l'histoire de l'humanité, nous dit que décidément l'homme n'est que Ra, qui yetzer lev ha'adam rak ra mineola, car la tendance yetzer, on traduit instinct si vous voulez, du cœur de l'homme n'est que mauvais que depuis son enfance, mineola. Alors le Talmud enseigne que l'homme a d'abord un yetzer ra, Et ce n'est qu'à la bar mitzvah que le Yetzer HaTov commence à travailler, à apparaître. Jusqu'à la bar mitzvah, il n'y a que Yetzer HaRa. Et c'est un sujet qu'il faudrait reprendre un jour en séminaire complet de pédagogie, de l'éducation des enfants jusqu'à la bar mitzvah. Et alors, on est familier à ces enseignements, ça a l'air assez mystérieux, qu'est-ce que ça veut dire? On a un Yetzer HaRa jusqu'à la bar mitzvah, et qu'à la bar mitzvah, on a un Yetzer HaTov. D'abord, qu'est-ce que c'est la bar mitzvah? Eh bien, la bar mitzvah, c'est le jour où l'enfant devient pubère. C'est pourquoi, chez les filles, c'est un an avant, puisque les filles sont pubères un an avant. Ça veut dire, c'est le jour où l'enfant est capable à son tour de donner la vie. C'est là qu'il devient majeur et responsable du point de vue de ses actes. Alors, on a bien compris, recevoir la vie, c'est le Yetzer HaRa. Donner la vie, c'est le Yetzer HaTov. Et par conséquent, il faut arriver à penser ces catégories en les dégageant de pathos à un niveau où la finalité du Yetzer HaRa peut être comprise comme bonne. Je reprends et je vais essayer de le faire très rapidement, vous me direz si c'est suffisant. Je reprends les catégories fondamentales. Recevoir l'être, c'est la racine du mal. Et donner l'être, c'est la racine du bien. Or, si je ne suis pas doué d'une tendance à recevoir l'aide, je ne peux plus exister. Si je ne suis pas attaché en bas par le Yetzer HaRa qui me pousse, appétit d'être, à recevoir l'être, je remonte tout de suite. La Neshama est attachée en bas par le corps, sinon elle n'est pas chez elle en bas. Elle demande qu'une seule chose, c'est de remonter. Et c'est très dangereux de laisser la Neshama rêver à là-haut. Parce que si le Yetzer HaRa du corps n'est pas suffisamment lesté pour lester la montgolfière de la Neshama, ça risque des choses graves dont les psychologues risqueraient de vous parler. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on comprend la Neshama d'un tzaddik, elle n'a qu'un seul désir, de remonter chez elle. Elle est mal en bas. Il faut donc qu'elle soit attachée en bas pour la finalité de son existence de ce monde-ci, de son existence terrestre, par le Yetzer HaRa qui est appétit de vie. Alors, ça veut dire que la tendance à recevoir l'être est la condition sine qua non de notre existence. C'est lorsqu'on fait servir cette tendance à recevoir l'être à ce qu'on appelle en français l'égoïsme, c'est toujours l'enseignement du Rav Ashlag qui continue, que ça devient le mal. Alors que l'altruisme, donné, c'est ça le bien. Alors le Rav Ashlag explique que nous sommes donnés apparemment à un problème impossible à résoudre. Parce que recevoir et donner sont deux tendances contradictoires. Or, nous devons les satisfaire les deux pour pouvoir exister. Si je ne satisfais pas la tendance à recevoir, je m'évanouis, je n'existe plus. Et à la limite, il s'agit des tendances égoïstes. Mais si je ne satisfais pas ma tendance à donner, le bien, l'altruisme, je suis malheureux d'être. C'est ce que les philosophes appellent Jean Val, le malheur de la conscience. La conscience qui se connaît comme malheureuse parce qu'elle sait que ce qui la fait exister, c'est mal, la jouissance. Alors le Rav Ashlag, et c'est le génie de simplicité du Rav Ashlag, établit qu'il y a quatre dispositions de ces deux Yetzarim. Je vous le dis très rapidement et vous me direz après si ça suffit comme analyse. Recevoir pour recevoir, ça c'est le mal. Donner pour donner, c'est le bien illusoire. Parce que celui dont la sisma, le slogan n'est que donner pour donner, l'art pour l'art, gratuit, désintéressé, fait semblant qu'il ne reçoit jamais, ça, c'est un commencement de la folie d'orgueil. En général, ces idéalistes qui n'ont comme slogan que donner en vue de donner et qui cachent le fait qu'ils reçoivent, ils ne mangent pas, ils ne respirent pas, ils ne vont pas à la banque à la fin du mois toucher leur chèque. En général, c'est le commencement de ce terrible orgueil des fondateurs de religion où le fondateur est pris pour Dieu, celui qui ne fait que donner. Vous voyez jusqu'où ça va? J'ai nommé personne. Et en général, les théologiens de ces religions sont très gênés parce qu'il a eu une mère. Alors il n'a pas eu de mère, tout en ayant eu une mère. Mais en tout cas, sûrement, il aura pas de fils. Bon, est-ce que c'est clair ce que je dis? Okay. Oui, ce genre de mythe est très ancien. Okay. Et comme vous le savez, nous sommes anti ce mythe. Je referme la parenthèse. C'est vrai? Parce que, bien sûr, la notion même des tolado, des engendrements, c'est l'impureté absolue dans une telle théologie. Vous vous rendez pas compte? Nous sommes dans une synagogue, donc ça me gêne beaucoup de parler de ça, mais je ne peux pas résister à vous citer un enseignement. J'ai eu des occasions de rire dans ma vie, ça existe. Mais ce jour-là, j'ai ri un quart d'heure de suite et on était dans une église. Alors, un enseignement du grand rabbin Jaïs, qui était un de nos maîtres de la génération précédente à Paris. Nous avons entendu parler du grand rabbin Jaïs, qui était grand rabbin de Paris. Et nous étions en délégation juive chez l'aumônier des étudiants catholiques à Paris. Et il nous a reçus dans sa chapelle, devant un parterre d'étudiants considérable. Il y avait des juifs, des protestants, des catholiques. Alors, le grand rabbin Jaïs s'était mis en colère en entendant le curé parler de son idole. Alors, je m'excuse de la sainteté du lieu, mais je vais vous le citer quand même. Il est devenu rouge de colère. Il dit, mais de qui vous parlez? Un bon Dieu qui fait pipi. vous voyez, alors, pour eux, c'est le blasphème absolu dès qu'on fait allusion aux fonctions de la vie. C'est l'impureté absolue. Alors que si vous étudiez les récits parlant des lignées d'engendrement du Messie juif, si j'ose dire, hébreu, lisez l'histoire de Ruth, mais avant l'histoire de Ruth, lisez l'histoire des filles de Lot, d'abord les filles de Lot, ensuite Judas et Tamar, et Judas et Tamar, et ensuite Ruth et Boaz. C'est quand ça s'affine et que ça devient un enfantement réel, parfait, que le roi David peut naître. Oui, oui, d'où sort le Mashiach, de l'enfantement réel, allant dans une telle théologie du donner que en vue de donner, ce que vous appelez l'art pour l'art dans la culture contemporaine, on ne reçoit pas. Donc on ne donne pas. Bon, finalement, je referme la parenthèse. Et je pensais, en écoutant le grand rabbin Jaïs, à l'emblème de la Belgique. Je ne sais pas si vous dites que je reviens. Oui, un mannequin, oui, comme chez moi. Je sais. Et alors, c'est la deuxième position. Alors, il faut passer par là, avant d'arriver à la troisième et la quatrième. La première position, la plus inférieure, c'est de recevoir pour recevoir. On fait l'apprentissage des Kele Kabbalah. Ça veut dire des véhicules de réception. C'est-à-dire avoir envie d'avoir envie. Ça, c'est l'âge de l'enfance, où il faut apprendre à l'enfant à fabriquer les vases de réception de ce qu'il recevra. Et si on a, finalement, toute la vie, on ne reçoit jamais plus que le contenu des contenants qu'on a préparés jusqu'à la bar mitzvah. Est-ce que c'est clair, mon langage civil, hein? Et c'est pourquoi il faut bien prêter attention à cela. Lorsqu'on élève les petits-enfants, non seulement c'est leur droit d'avoir envie, mais c'est le devoir des parents de leur apprendre à avoir envie, parce qu'après, ils n'auront que cela comme envie. Ni plus ni moins, dit la Kabbalah. Et alors, si on a fermé les vases de réception, ils passeront toute leur vie à essayer de les ouvrir, et ils n'arriveront pas à les ouvrir. Et ça coûte cher les psychologues. Vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est le Yetzer Hara jusqu'à la bar mitzvah. À l'âge de la bar mitzvah, l'organisme même, l'être, se prépare à donner. Alors là, le Yetzer Tov entre dans la nefesh. C'est clair? Le Yetzer Tov apparaît à l'âge de la bar mitzvah. Et alors là, il y a une période de préadolescence, de la crise mystique que tous les jeunes gens ont connue, et là, qui est qu'on donne pour donner. C'est une crise très dangereuse, parce que si on n'en sort pas, il faut y passer. Mais si on n'en sort pas, on bascule dans l'illusion que j'ai décrite tout à l'heure avec l'emblème de la Belgique. Vous voyez ce que je veux dire, okay? Et cet idéalisme est vraiment daté, il est vraiment typique. C'est l'âge du romantisme, d'ailleurs, en littérature. Et il faut passer par l'âge romantique, mais il faut en sortir. C'est clair. Bon. Et alors, il y a deux apprentissages. Au premier stade, on apprend à recevoir. Et c'est à ça que les Rechaïm servent. Est-ce que c'est clair, Ken? Ils nous apprennent comment on reçoit. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Le deuxième stade, on apprend à donner. Et c'est à ça que les idéalistes servent. Ils nous apprennent à donner. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Est-ce que c'est clair? Bon. Et alors, on monte dans les deux niveaux supérieurs. Il y a un premier stade dans ces deux niveaux supérieurs où, lorsqu'on est sorti, vous pourrez vous faire une autre analyse au niveau des âges de l'enfance, mais ça nous prendrait trop de temps. Lorsqu'on est sorti de ces deux apprentissages, on sait déjà qu'il faut les deux. Mais on n'est pas encore très habile à savoir dans quel ordre. Alors, c'est le stade de la religion naturelle. On donne en vue de recevoir. La formule des latins était « do ut das ». Ça doit être comme ça en russe. Ça veut dire « do, je donne, ut, afin que, das, tu me donnes ». C'est-à-dire « je donne ma vertu pour que tu me donnes un fauteuil au paradis », par exemple. C'est le niveau de la religion naturelle. Et il y a quand même une gêne à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle la vertu lolishma, la vertu pas authentique. Mais elle est très précieuse. Je donne souvent cet exemple. Si, par exemple, quelqu'un dit « d'accord, je serai, bien que je n'ai pas le temps, bien que c'est difficile, je serai le trésorier du bureau de bienveillance, mais je veux la Légion d'honneur. » Eh bien, on lui dit « bon, tu auras la Légion d'honneur, pourvu que tu sois le trésorier du bureau de bienveillance. » Mais il est encore dans ce troisième stade. Ça veut dire « c'est très bien ce que tu as fait, mais tu l'as fait. » Vous avez vu ce que je veux dire? Et c'est pas joli, mais c'est indispensable. Donc, et finalement, on arrive au stade de la maturité, qui s'appelle « chokhma » en hébreu. C'est « recevoir en vue de donner ». Alors, le point de chute, c'est pas recevoir, mais c'est donner. On a satisfait le Créateur en tant que Créateur de la réalité, on reçoit. Et on a satisfait le Créateur en tant que Créateur de la vérité, on donne. Mais dans cet ordre-là, recevoir en vue de donner. Et recevoir le plus possible en vue de donner le plus possible. Vous voyez pourquoi, en général, il y a une espèce d'accusation contre l'identité juive de matérialisme. C'est parce qu'on a connu des juifs inversés. Ceux qui donnent beaucoup en vue de recevoir beaucoup. Le juif authentique, c'est celui qui reçoit beaucoup en vue de donner beaucoup. Alors on s'arrête là. Ils veulent recevoir, c'est des matérialistes. Mais on oublie, mais c'est en vue de donner. Et la consigne, effectivement, que donne le Rav Ashlag, c'est recevoir le plus possible en vue de donner le plus possible. À ce niveau-là, on atteint le bonheur de la conscience. Parce que les deux tendances sont satisfaites. Et c'est le sod de ce que dit Rashi sur le Kriyat Shema, de servir Dieu avec ses deux penchants. Ve'avta et Hashem Elokecha, bechol levavecha, de tout ton cœur. Et Rashi, c'est un midrash qui met en évidence que le mot de cœur dans ce verset, c'est levav, avec deux bêtes. Et lev avec un bête, lev, c'est le cœur unifié. Levav, c'est le cœur avec les ventricules et les oreillettes, enfin les deux côtés. Celui qui reçoit et celui qui donne. Vous voyez, c'est la même image. Et alors, Rashi explique, avec tes deux tendances. Là, il y a une étude très importante et très difficile. Ça veut dire, avec ta tendance au bien et avec ta tendance au mal. Vous voyez comment ça rejoint l'analyse du Rav Ashlag. C'est bien clair? Alors, sur ce Rashi, quelques phrases. Habituellement, on pense que là où c'est facile, c'est de servir Dieu avec la tendance au bien. Et là où c'est difficile, c'est de servir Dieu avec la tendance au mal. Et que par conséquent, le chidouche de Rashi, du midrash que cite Rashi, serait de servir Dieu avec la tendance au mal. Et comment? Les psychologues appellent ça la sublimation des passions. Okay. Et le mot « heure », l'égalité de l'heure. L'égalité, je cherche le mot en français simple, l'égalité d'humeur, okay, qui est le véritable bonheur du sage. Okay. Ce niveau de chokhma, de la sérénité, de la sagesse, lorsque l'ordre est recevoir. Et donc on est élaboré, serviteur du Créateur. Et en vue de donner, on est, on sait, nachat ruach la yotzer. C'est les deux termes du Shulchan Aruch. Quand on se réveille le matin, il faut se préparer à être serviteur du Créateur. Ça veut dire recevoir. Mais toute la journée, il faut mériter ce qu'on a reçu en le donnant. Et ça se dit, la tête nachat ruach la yotzer. Et je referme la parenthèse et vous avez donc la réponse à votre sujet. Ça veut dire la racine du Yetzer Hara, c'est un bien suprême. C'est ce qui le permet